Hej, då börjar vi.
L'interview du jour.
Sur RDOA 101.7 et 107.5 FM, direction une tourelle avec Bono et Simon. Salut les gars.
Salut.
Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites sur cette tourelle ?
Eh ben, on va dire qu'on monte un peu la garde juste aux abords du chantier de déviation de Saint-Péret, qui là est en pause à cause du mauvais temps, mais qui reprend tous les matins à 8h et qui s'arrête tous les soirs à 17h. Et du coup, nous, on reste sur place toute la journée pour surveiller déjà qu'ils ne fassent pas n'importe quoi par rapport à ce qu'ils ont le droit de faire sur le chantier, et aussi qu'ils ne défrichent pas le bois dans lequel on a construit cette tourelle.
On entend un chantier, une déviation Saint-Péret en Ardèche. Rappelez-nous un peu le contexte.
Alors, le contexte, il faut remonter quelques années en arrière. Il y a un projet de déviation routière qui est assez ancien du côté ouest du bassin valentinois, donc juste au bord du Rhône en Ardèche, qui consisterait du coup à faire par petits morceaux la fin du périphérique de Valence. Donc, on connaît la Lacra à l'est et là, il manque un petit bout à l'ouest. Et le problème, c'est que cette fin de périphérique, elle tombe en plein milieu des terres agricoles de Saint-Péret et de Cornas. Et c'est pour ça qu'il y a des collectifs et des assos qui se sont montés sur place pour protester contre ce projet de déviation. Parce que les arguments qui sont donnés d'un point de vue réduction des bouchons sont absolument pas convaincants. Et surtout, les atteintes à la biodiversité et aux terres agricoles sont vraiment pas acceptables. Et du coup, il y a une résistance qui s'est mise en place déjà depuis plusieurs années d'un point de vue associatif, juridique. Et depuis l'année dernière, il y avait eu création d'une ZAD à l'automne. Et il y en a une nouvelle cette année pour empêcher que les travaux viennent détruire les terres naturelles et agricoles.
Alors, on va parler de cette ZAD et un peu des collectifs qui sont au travail. Est-ce que tu peux quand même nous dire si concrètement ça dévie Saint-Péret ? Est-ce que c'est intéressant même pour les habitants ?
Alors, sur la partie de déviation de Saint-Péret, du coup, le projet à la base c'était de dévier deux communes, donc Saint-Péret et Cornas, et vraiment de dévier tous les camions qui viennent de Tournon ou qui partent du sud de l'Ardèche pour pas qu'ils passent à travers les villages. Là, il se trouve que le projet, du coup, il a été réduit de moitié. Il dévie que Saint-Péret et il arrive en plein cœur de Cornas. Donc, pour les habitants-habitantes, ça n'a vraiment pas de sens de faire une moitié de déviation. Alors, nous, on est contents parce que ça impacte moins de terres agricoles, mais d'un point de vue urbanistique, c'est vraiment absurde. Et du coup, il y a pas mal d'habitants-habitantes qui sont convaincus que ce n'est pas très utile de faire cette déviation-là. Déjà parce que sur l'horizon assez lointain, dans tous les cas, il y aura une augmentation du trafic routier qui vient du fait qu'il y a de plus en plus de voitures. Et aussi une augmentation du trafic routier qui viendra du fait que si le projet vient à son terme, ce sera vachement plus intéressant pour les camions de passer par ces routes-là que de passer côté Drôme. Et du coup, il y a un trafic qui va se répartir depuis la Drôme vers l'Ardèche et qui va passer par ces routes-là. Donc, la réduction des bouchons, pas tant que ça.
Voilà, et on imagine même aux dépens de l'autoroute A7 qui est censée drainer les plus gros camions, quoi.
Bah exactement, c'est-à-dire que la Lacra, c'est quand même un sacré détour. Là, ce serait un détour un petit peu complémentaire côté ouest qui permettrait d'éviter la section payante de l'A7. Il y a déjà tout le monde qui évite cette section-là en prenant la Lacra. Donc là, ce serait la même chose côté Ardèche, quoi.
Dis-nous alors, quels sont les collectifs un peu au travail sur cette ZAD de Saint-Péret ?
Alors, le collectif qui a monté la ZAD et qui l'occupe actuellement, ça s'appelle les Amis de la Plaine de Saint-Péret. C'est un collectif informel qui avait été créé il y a 2 ans à l'occasion du Festival de la Plaine. C'était une grosse fête qui avait été faite dans la Plaine pour sensibiliser, informer les gens, parce qu'à l'époque, il y a 2 ans, il n'y avait pas grand monde qui était au courant, les travaux n'avaient pas démarré. Et du coup, il y avait eu à peu près 500 personnes qui étaient venues à un festival en automne 2023. Et le collectif des Amis de la Plaine était resté en contact, les gens étaient un peu repartis de leur côté, mais il y avait quand même des gens qui se revoyaient de temps en temps. Et du coup, quand il y a eu la menace des travaux à l'automne 2024, donc l'année dernière, ces gens-là sont remis en lien et ont décidé d'ouvrir une occupation et d'aller occuper les arbres du lieu dit du nichoir pour éviter qu'ils soient abattus. Donc ça avait fonctionné l'année dernière, les travaux ont été arrêtés suite à un recours en justice et du coup la ZAD s'était démontée puisqu'elle n'avait plus de raison d'être. Et voilà, le problème, c'est que ça n'a pas débouché sur une interruption totale du projet, mais juste sur une suspension partielle. Et que là, à l'automne 2025, les travaux ont repris. Du coup, le collectif a repris de l'activité et a à nouveau lancé une occupation des lieux pour éviter leur destruction.
Et comment c'est possible ? Donc, une action en justice qui finalement débouche vers quelque chose de partiellement arrêté, mais qui repart sur les mêmes bases ?
Ouais, alors c'est l'objet du nouveau recours qui a été déposé cette année par l'association Alter et les Frappenas Drôme Ardèche. En gros, il y a la préfecture de l'Ardèche qui a mis un arrêté l'année dernière. Alors tout le monde dit que c'est un arrêté qui ménage la chèvre et le chou, là, c'est vraiment l'expression qui va bien. C'est-à-dire qu'elle, son rôle de préfecture, c'était d'empêcher les troubles à l'ordre public. Du coup, elle voulait calmer le jeu pour tout le monde. Et du coup, elle a suivi la décision du tribunal administratif en suspendant les travaux et en demandant des études complémentaires. Ça, c'était ce que demandaient, les associations. Sauf que du côté des communautés de communes et du département, il y a vraiment une volonté politique qui est hyper forte de faire ce projet de route bah, pour finir le périphérique de Valence. Hein, c'est un projet régional. Et du coup, il a fallu aussi ménager cette partie-là. Donc, elle leur a laissé la possibilité de faire une partie des travaux, le pont sous la voie ferrée, qui est la partie la plus chère et qui est la partie la plus contrainte d'un point de vue calendrier, puisqu'ils sont censés le faire avant mai 2026. Ça, c'est un accord avec la SNCF Réseau. Ils ont un calendrier super contraint. Et du coup, voilà. Donc, elle a demandé des études complémentaires naturalistes. Et en même temps, elle leur a autorisé à faire une partie des travaux sur la même zone que les études naturalistes. Donc, c'est là-dessus que nous, on est en justice. Enfin, nous, non, mais les associations sont en justice et nous, on occupe le terrain pour permettre que la justice fasse son travail, dans les temps.
Heureusement que tu nous dis que c'est finalement un projet régional, parce que j'allais dire, quel intérêt a le département de l'Ardèche de s'encombrer des problèmes de la Drôme et du
Oui.
périphérique de Valence? On pourrait se poser la question aussi.
Eh ben oui. Donc ça c'est ce qu'on découvre au fur et à mesure. On en apprend tous les jours hein, quand on commence à se lancer dans des luttes locales où on découvre un peu les mafias et comment ça fonctionne la répartition du pouvoir. Et du coup on sait que du coup le président de la communauté de communes, du coup Jacques Dubail, c'est un bon ami du maire de Valence, ex-ministre Nicolas d'Aragon. C'est tous les deux des très bons amis d'Olivier Amran, qui est le président du département de l'Ardèche. Et tous ces gens-là sont copains avec Laurent Wauquiez, donc ex-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, maintenant en candidature pour faire plein d'autres trucs. Et donc c'est vraiment un projet qui remonte assez haut dans la hiérarchie des collectivités territoriales et qui est un projet structurant en fait parce que la vallée du Rhône est un axe logistique énorme et que du coup l'idée c'est de faire passer plus de camions, de rajouter des zones logistiques. Il y a tout un projet d'urbanisation de la plaine et donc la déviation de Saint-Péray c'est la petite goutte. Le petit confetti qu'il faut qu'ils fassent parce qu'ils ont découpé le projet en plein de morceaux. Donc là, actuellement, c'est déviation de Saint-Péray. Il y a quelques années, c'était déviation de Guirand. Dans quelques années, ce sera déviation de Cornas. Mais tout ça n'a aucun intérêt local. C'est vraiment un projet régional, logistique, de circulation de marchandises.
Et maintenant, explique-nous un peu donc les zones que vous défendez. Alors, ce bois, tu parlais aussi de zones agricoles. Quels sont le positionnement des propriétaires, justement, des terrains que vous voulez défendre? Raconte-nous un peu ça.
Du coup, comme je disais au début, c'est un projet qui est assez ancien. Il a plusieurs dizaines d'années. Et en fait, ça fait des dizaines d'années que la mairie de Saint-Péray et la communauté de communes Rhône-Crussol rachètent et préemptent tous les terrains qu'ils peuvent, tous les terrains qui passent en héritage, tous les terrains qui passent en vente.
Ah
Donc, ils
ouais.
achètent tout ça. Ils ont acheté une maison, notamment, il y a des années, qui n'a servi à rien. Elle a été rasée. Le projet passe pas dessus au final. Donc, il y a eu beaucoup d'achats de terrains comme ça depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. Et du coup, il y a pas mal de terres agricoles qui sont, suite au départ en retraite et toutes ces choses-là, qui sont tombées en déprise agricole parce que la mairie les a préemptées et qu'elle a installé personne dessus. Et du coup, il y a la majorité des terres agricoles qui n'étaient plus exploitées. Il y en a quelques-unes qui étaient encore, en droit d'usage par des agriculteurs, agricultrices, notamment sur du foin, notamment sur de la vigne. Et il y en a, quelques-unes, ça c'est la minorité, qui étaient, pas encore, acquises et qui étaient encore exploitées par les agriculteurs. Donc là, les parcelles qui ont été en litige là cette année, c'était des parcelles de vignes notamment, que la communauté de communes avait fini enfin par racheter. Et au final, les travaux ne se sont pas faits l'année dernière, donc le vigneron a pu faire une dernière vendange. Au final, les travaux se sont retardés cette année, il a pu faire une autre vendange là en fin août. Mais voilà, mais du coup, c'est vraiment un scandale parce que toutes ces terres agricoles, depuis 10-15 ans, elles auraient pu être exploitées, elles auraient pu servir à faire de l'autonomie alimentaire sur le territoire. Et au final, elles sont gelées depuis des années parce que la mairie s'acharne dans son projet de déviation.
Et ça paraît étonnant d'ailleurs que il n'y ait pas un mouvement agricole un peu puissant, que finalement qu'il se soit mis aussi en route. Il y a quelque chose normalement pour gérer les terres agricoles. Enfin,
Ouais, ça c'est la SAFER
oui,
qui est
voilà.
censée préempter normalement avant les communautés de communes. Sauf que là, la SAFER s'était pas positionnée dessus. Alors les choses pourraient changer puisque maintenant dans l'Ardèche, du coup, c'est la Confédération paysanne qui est syndicat majoritaire et la Confédération paysanne a pris position à de nombreuses reprises et encore récemment contre la déviation de Saint-Péray et la destruction des terres agricoles du coin parce que c'est des terres qui sont hyper intéressantes en bord du Rhône, elles sont plates, elles sont hyper desservies, il y a des routes de partout déjà, donc c'est vraiment des terres qui sont importantes pour l'agriculture locale. Et là, on espère qu'avec le changement de pouvoir à la Chambre d'agriculture et du coup dans toutes les instances qui en dépendent, il puisse y avoir une meilleure défense des terres agricoles. Et après, sur les propriétaires, bah, c'est ce que je disais, en fait, c'était des départs à la retraite, du coup, des préemptions sur des fermes qui n'ont jamais été transmises. Donc voilà, là, il y a eu moins de combats de la part des paysans paysannes, en fait.
Ouais, ils se sont pas rendu compte qu'ils étaient en train de perdre un patrimoine, quoi.
Exactement, ouais. Petit bout par petit bout, en fait, la mairie a vraiment racheté énormément de terres et voilà, les gens ne se sont pas rendus compte. Et le risque, c'est que ça finisse comme à Guirand, du coup, juste au sud de Saint-Péray. À Guirand, il y a toutes les terres agricoles, tous les vergers, tout ça qui a été racheté aussi au fur et à mesure et qui est en train d'être saccagé pour faire des lotissements, des zones artisanales, des zones industrielles et tout ça.
Du bon bétonnage en perspective contre
C'est ça.
la nature. Est-ce qu'on peut savoir comment vous êtes organisé? C'est toujours intéressant.
Eh ben, comment raconter ça? Ben, nous, les journées, le quotidien, ils se ressemblent un peu tous les jours en ce moment. C'est que assez tôt le matin, nous, on se réveille, on se met en place aux alentours du chantier pour empêcher l'accès des machines aux zones qui sont particulièrement vulnérables au niveau biodiversité. Du coup, il y a des habitants-habitantes, il y a des personnes de plein de collectifs qui viennent filer des coups de main, qui se mettent à 7 h du matin. Sur le long des routes pour repérer l'arrivée de la police, l'arrivée des pelleteuses, tout ça. Donc ça, c'est assez bien rodé et ça nous permet d'avoir vraiment un visuel sur la journée. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Est-ce que ça va être bah, rien du tout parce qu'il pleut? Est-ce que ça va être beaucoup de policiers? Du coup, on se demande pourquoi ils sont là et est-ce qu'ils vont pas essayer de nous expulser? Ou est-ce que ça va être les machines, les ouvriers, ouvrières de d'habitude qui vont simplement continuer ce qu'ils ont déjà commencé? Et toute la journée, du coup, bah, on reste vigilant, vigilante, on tient des points de blocage pour empêcher les machines d'accéder à certaines zones. Et on occupe certains lieux aussi qui sont des lieux de, bah, d'habitation maintenant, vu que ça fait 3 semaines qu'il y a des gens qui vivent dessus.
Ouais, et concrètement, comment vous bloquez les machines, par exemple?
Et ben là, du coup, les techniques qui ont été choisies, c'est des techniques de blocage en hauteur. Du coup, il y a des gens qui se perchent sur des structures, différents types de structures. Les structures sont positionnées à des endroits qui sont gênants pour les pelleteuses. Les gens peuvent passer à pied, mais pas les machines. Et du coup, bah, tant qu'il y a des personnes qui sont postées sur les structures, les machines ne peuvent pas passer. Et tant qu'ils délogent pas les personnes en hauteur, ils font pas les travaux.
Oui, voilà, c'est ce que comme là vous êtes sur une petite tour, en fait, vous avez construit plusieurs structures au milieu des chemins, quoi.
Exactement. Ouais. Là, la tour, elle est au milieu du bois, celle où on est actuellement. Et du coup, elle est accrochée de partout à tout ce qu'il faut pour que le bois ne puisse pas être abattu par tronçonneuse, quoi.
Et évidemment, on imagine que les ouvriers et ouvrières, eux, n'ont pas du tout envie d'avoir à vous mettre un coup de pelleteuse.
Eh ben, on a eu des mauvaises surprises quand même
Ah.
ces dernières semaines où eux ils nous disent que c'est parce qu'il y a trop de tension sur le chantier, il y a trop de fatigue, il y a trop de que c'est les blocages du coup qui sont en cause. Mais il y a quand même eu des initiatives assez désastreuses de la part d'ouvriers ouvrières. Il y a notamment un conducteur de pelleteuse qui a essayé de foncer sur un groupe de manifestants avec sa pelleteuse et qui a essayé d'interposer son godet de pelleteuse devant les gens pour les faire reculer. Donc ça, c'était hyper dangereux. Et il y a un ouvrier SNCF qui a aussi essayé de prendre l'initiative de couper la corde de quelqu'un qui était perché en hauteur, quitte à le faire tomber et à le tuer. Donc lui, il a pris cette initiative-là après un policier, donc on va dire que c'est le policier qui a donné l'exemple. Mais voilà, c'est des gens qui sont ouvriers, ouvrières, qui ont aucun gain immédiat à faire cesser les blocages, mais qui ont pris quand même des initiatives super dangereuses, qui nous ont mis nous en insécurité, à plusieurs moments. Ouais.
Et le rapport avec la police, il est comment?
Alors, la police, elle est présente tous les jours dès qu'il y a des travaux, donc dès qu'il y a des ouvriers ouvrières, dès qu'il y a les archéologues, dès qu'il y a les pelleteuses ou dès qu'il y a les engins de broyage. Nous, on bloque certaines zones, eux, ils font les travaux sur d'autres zones, du coup, bah, les policiers restent à la frontière entre les deux. Mais à plusieurs reprises, il y a eu des actions assez désastreuses de la part de la police. Où bah, il y a la tentative de couper la corde, notamment d'une personne qui était perchée en hauteur. Il y a eu des interpellations assez violentes de personnes qui étaient là pour filmer le chantier. Du coup, c'est ce que je disais, hein. Il y a des personnes qui sont en vigie autour du chantier pour filmer. Et il y a eu pas mal d'interpellations de ces personnes-là, avec en plus des suites juridiques, des gens qui ont fini en garde à vue, il y a une personne qui a eu une perquisition à son domicile. Pour des gens, au final, qui n'avaient fait aucune action de blocage, mais qui étaient simplement là en vigie autour. Donc ça, nous, on estime que c'est une consigne de faire peur aux habitants-habitantes qui viennent aider la lutte. pour essayer de les décourager. Sauf que, a priori, ça marche pas. Il y a toujours autant de monde qui vient aider. Nous, voilà, on a mis en place un soutien à toutes ces personnes qui ont subi de la répression policière. Donc, pour les accompagner, pour leur expliquer ce que ça peut être les suites, pour les mettre en contact avec un avocat, parce que c'est pas normal que ces personnes-là subissent une répression alors qu'elles n'ont strictement rien fait.
Ouais, et on imagine que tout ça, ça vous coûte pas mal d'argent.
Ouais, bah pour l'instant, on a quand même du soutien qui est bénévole de la part déjà de personnes qui s'y connaissent en juridique et aussi de la part de l'avocat qui nous fait du qui nous offre ses conseils, on va dire, et ses recommandations bénévolement. Et après, bien sûr, tout ce qui sera bah, frais d'avocat s'il y a des procès ou des amendes, bah ça, ouais, on va avoir besoin de soutien. Et c'est pour ça qu'on a mis déjà en place une cagnotte. Parce qu'on a déjà eu des amendes en fait, mais de petits montants. C'était des intrusions sur chantier, donc ça c'est 30 euros. Et stationnement à des endroits qui leur plaisaient pas, ça pareil, c'est une trentaine d'euros. Là, on est quand même menacé d'amendes bien plus importantes sur les personnes qui sont accusées d'avoir. Alors, il y en a qui sont accusés d'avoir résisté à leur arrestation ou alors d'avoir entravé les travaux. Là, ils peuvent aller chercher sur des plusieurs centaines d'euros d'amendes. Donc évidemment, on aura besoin de soutien à ce moment-là et ces personnes auront besoin de soutien si elles sont accusées de ces choses-là, quoi.
En tout cas, on profite évidemment de vous avoir sur notre antenne pour
Ouais.
au moins s'associer à cette lutte comme ça de loin, puisque je pense que dans
Trop
le
bien.
Diwa, si on n'est pas trop sorti, on n'était pas au courant. Moi, c'était mon cas,
Ah ouais, ok.
bah, que précisément il y avait une lutte assez longue sur ces projets de déviation. On les voit
Ouais.
de loin, on n'y passe pas non plus tous les jours. Nous, votre contact nous a été glissé par une complice
Oui.
qui avait eu aussi une liste finalement de choses dont vous pouviez avoir besoin. Et donc, comme vous
Ouais.
êtes en forêt et qu'il faut garder ce chantier tout le temps, voilà, vous avez peut-être des besoins. Tu peux les balancer à l'antenne si tu veux.
Ah bah ouais, carrément. Bah du coup, notre besoin principal, c'est qu'il y ait du monde qui vienne nous voir, venir sur place, s'informer, découvrir le terrain et découvrir la lutte. Ça, c'est ce qui nous donne vraiment le plus d'énergie et le plus de cœur à résister. Et après, les besoins plus matériels, un peu les fondamentaux, bah là, comme on commence à rentrer dans l'automne et la saison du mauvais temps, on a besoin bah, de trucs étanches, donc des caouets, des ponchos, des capes de pluie. Des bâches pour se protéger de la pluie. Et après, sur les besoins plus ce qu'on consomme un peu tous les jours, bah, sur la nourriture, plutôt des choses qui se conservent, des fruits secs, des pâtes, du riz, des choses comme ça. Parce que du coup, comme il y a pas mal de gens qui passent sur le lieu, évidemment, il faut nourrir tout ce petit monde. Donc on se fait la cuisine entre nous et ça fait tourner assez vite en fait ce qu'on nous apporte. Et après, s'il y a des gens qui sont vraiment motivés et qui ont du temps le week-end ou quoi, qui veulent ramener. Leur énergie, leur huile de coude, leur petit stock de boîtes palettes qui traînent quelque part et qui veulent nous aider à construire des trucs encore plus stylés. Ça, c'est trop chouette. Quitte à faire un petit peu gaffe quand même, parce que voilà, la police nous surveille et tout ce qui participe à l'élaboration de l'occupation est bien sûr illégal. Donc, il faut prendre ses précautions. Mais voilà.
Et puis accepter d'être fiché finalement. Est-ce qu'on en parle de ça?
Ouais, alors il y a eu pas mal de contrôles d'identité vraiment au tout début de la lutte, là, au début septembre. Depuis, en fait, les policiers sont là et chacun reste dans son coin. Donc il n'y a pas eu de nouvelles vagues de contrôles depuis au moins une semaine et demie. Mais c'est vrai que, voilà, notamment sur les habitants habitantes locaux, c'est un fichage qui est lourd à supporter parce que c'est des gens qui vivent dans le village à côté. Nous, on vit aussi dans le coin, mais parfois à plusieurs kilomètres, donc on est moins concerné. Là, il y a vraiment des gens des quartiers autour qui se font contrôler. Donc ensuite, ça peut être des rumeurs, de la lourdeur parmi voisinage, de se dire, ah, ben, telle personne a participé, on va plus lui parler. Donc le fichage, il pourra servir plus tard à la répression, mais il sert déjà à stigmatiser les gens, en fait, de soutien à une lutte écolo, de soutien à des actions qui sont illégales et à essayer de les décourager.
Voilà, et ce qui est fort, et tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes peut-être presque, j'allais dire, rodé ou en tout cas déterminé dans votre lutte militante, alors que eux tentent d'accompagner quelque chose qui les concerne très directement sans forcément être exactement militant.
Oui, c'est ça. Souvent, c'est même un intérêt immédiat de gens qui ont découvert la lutte parce que les travaux avaient commencé, qui ont découvert que le chemin derrière leur baraque, il commençait à être occupé par des pelleteuses pendant la journée, qu'il y avait des trous partout, qu'il y avait des arbres qui avaient commencé à être abattus. Et du coup, ces personnes-là ont envie de se mobiliser contre ça. mais elles sont absolument pas prêtes à subir des procès, de la répression et tout ce qui s'ensuit quand on est un militant ou une militante très engagée. C'est vraiment injuste du coup que ces personnes-là qui subissent tout ça de plein fouet se retrouvent à se faire ficher par leur propre police municipale en fait.
Une dernière chose peut-être qui pourrait avoir de l'intérêt, vous gardez évidemment l'anonymat que vous souhaitez, mais est-ce que tu pourrais nous dire, et peut-être Bono s'il a envie de partager quelque chose aussi avec nous, qu'est-ce qui vous a lancé dans cette forme de lutte-là?
Tu veux commencer?
Bah, pour moi, c'était plus le côté. Du moins, j'ai une formation en écologie, du coup, c'était plus un peu le désespoir de voir toutes ces terres qui sont dévastées, qui sont bétonnées, souvent par les mêmes entreprises, pour les mêmes types de projets, toujours avec l'extension des zones d'activité humaines pour des choses qu'on sait non viables à long terme. Franchement, avec nos cours, avec les discussions que j'ai eues avec d'autres personnes, c'était à chaque fois, mais en fait, on va droit dans le mur, que ce soit pour les questions climatiques, pour les questions de la biodiversité, même en tant que société. Du coup, c'est vraiment ouais cette aberration de voir que si on fait rien, que s'il n'y a pas des personnes qui sont là pour s'opposer à ce type de projet. Presque quotidiennement, parce que des projets comme ça, il y en a un à Saint-Péray, mais il y en a de partout en France. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de monde qui vienne et qui soit là pour tout. Et donc, c'est vraiment cette sidération de voir que ça continue et que ça va jamais s'arrêter si personne s'y oppose vraiment frontalement.
Ouais, tu nous rappelles l'importance d'une présence physique concrète, quoi.
Oui.
Et toi, Simon?
Bah, j'ai grandi juste à côté, donc c'est des zones que je connais. J'avais des gens parmi mes meilleurs potes qui habitent dans le quartier qui est juste à côté, donc c'est des endroits où je suis déjà allé plein de fois. Et du coup, ça me paraissait pas possible de rester sans rien faire en voyant que tout ça allait être détruit et remplacé par une route, quoi, une de plus. Et après, il y a vraiment un truc qui est, une fois qu'on a commencé à s'impliquer dans ce genre de truc, il y a quelque chose qui est viscéral où il y a des arbres parce qu'on a fait beaucoup d'inventaire naturaliste sur la zone. Et du coup, les arbres, les petits animaux, les oiseaux, les insectes, les papillons, toutes les choses qu'on a inventoriées sur place, on finit par les connaître, par les s'y attacher. Et c'est juste pas possible de rester chez soi en imaginant une pelleteuse leur passer dessus. Donc, dès que les travaux ont menacé, je suis monté me mettre dans un arbre, quoi.
Merci pour votre témoignage. Alors, on rappelle que vous êtes le collectif de la Plaine contre le détournement routier de Saint-Péray et puis de ce qui s'ensuivra. Et qu'il y avait une cagnotte. Est-ce que tu veux me donner un lien, un site internet?
Ouais, tu veux que je te le dicte comme ça à la volée
C'est long, c'est chiant?
ouais, c'est un peu long et chiant. En gros, c'est sur Open Collective. Donc Open Collective, c'est une plateforme de cagnotte en ligne. Et c'est la cagnotte s'appelle Soutien aux amis de la plaine de Saint-Péray.
Eh ben, on mettra le lien sur notre site internet.
Super, merci beaucoup.
Et bon courage.
Merci.
Merci beaucoup de l'appel.
On vient de là où les flics te tapassent. Sans avenir, le passé te rattrape. On s'est cagoulé, on n'a pas perdu la face. On connaît les plaques et les brassards de la PAC. Des jeunes sont abattus pendant que leurs lois sont débattues. Sang sur le sol de garde à vue, manifestants qui perdent la vue. Confrontation, détonation, personne salue aux disparus. Sans sommation, passe à l'action, on rend rien, on parlera plus. Bled marine, c'est dur, c'est à la pente romane. Passer de Napoléon, j'en lève le corps, j'suis la traumate. Yo, yo, j'en lève comme harang, bla pomade. Passport, tier monde, j'en lève comme nomade. J'aime un gars, le ménétif, race au classe. Déri la qu't'en le bhor, mais j'suis là où la cave. M'aille beau qu'à grave, m'ra aigu, m'ra grave. L'ouatan, ho wahna, mais j'suis ma, mais j'suis trap, nata.
Pour nous archiver dans les murs de la préventive, pour nous hérésies qui déserte la République.
Quel punk, moi, t'as gelé, fire, mais ouais, j'ai.
Sentence, hérésie, vengeance. Pour nous inculper dans les murs de la préventive. Pour nous agiter sous les grenades défensives.
Et dans rap, moi t'as gelé, fuck me ouais j'ai.
Sentence, hérésie, vengeance, némésis.
Si tu portes l'uniforme, bien sûr que tu vas valide. Si tu suis les ordres, ne viens pas jouer ta victime. Quand tu portes plainte, on sait que tu cherches le mobile, que ta mère des comptes à cramer. Tu sais que t'as buté un civil. Je te vois plus d'un hypocrite, pas la décence d'assumer. J'ai fautif, mais tu préfères charger les morts et leurs familles. Pour nous les perquises, les sentences à la va-vite. Pour eux les classes sans suite, et ce crâne de médaille du mérite. Lanceur d'alerte, tribunal, comparution immédiate. Y'a rien à faire, ton bagage n'est pas adéquat. Nous l'ennemi de la nation, on cristallise de l'attention. Je veux la liste des lacs, chez les paveux commis d'office.
Mais شيل الميداي وحنا نحسبو في لي موار فوق لا ديكور صلحي البيطاي بلي رومور كارو ديطاي شفت الكوان تنتسنى الاذان عذاب البوفري نصنعو كيبين نطرقها والسندان يا زدنا في طروش بلاد السيم وشفنا الويل يا ضربنا طويب علي ظالم ود اوروي المخزن يميل شكون يزعم يخرفو بنص يا قطع الحس غير اللي دوي عندك الدرس
Pour nous agiter dans les murs de la préventive, pour nous hérésies qui dessertent la République.
Quel punk mort parce que les fuck me wedges.
Sentence hérésie, vengeance prévisible.
Pour nous inculper dans les murs de la préventive, pour nous agiter sous les grenades défensives.
Un rap mort parce que les fuck me wedges.
Sentence hérésie, vengeance prévisible.